Et c'était donc il y a un peu plus de 10 000 ans, l'histoire humaine a connu une révolution sans précédent en modifiant radicalement sa façon de vivre, car dans différentes régions du monde, des hommes et des femmes se sont sédentarisés en domestiquant des animaux et en cultivant certaines plantes. Cette révolution, c'est donc le néolithique. Elle a permis à notre espèce de se développer rapidement, d'entamer de nouvelles relations avec la nature. Et c'est le dossier de notre tête au carré. Je reçois dans quelques minutes pour en parler deux des plus grands spécialistes de la question, Jean Guilaine et Jean-Paul Demoule. Et j'attends dès maintenant vos questions sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Des scientifiques du monde entier viennent d'interpeller l'OMS sur les effets possibles des téléphones cellulaires. C'est à la une de la science et on va peut-être réussir à en parler aujourd'hui avec cette Villard.
Après l'échec de vendredi, c'est donc bien sûr 206 spécialistes originaires de 38 pays et qui disent qu'il est largement temps d'arrêter de polémiquer autour des risques et de passer à leur gestion. Donc on en parle tout à l'heure, dans un instant, avec vos questions sur Twitter, hashtag l'attaque.
Voilà pour le sommaire de cette nouvelle Tête au carré qui est réalisée par Violaine Ballet, une émission préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La révolution du néolithique, c'est donc le dossier ce lundi de la Tête au carré. Jean Guilaine et Jean-Paul Demoule, bonjour à tous les deux. Bienvenue Jean Guilaine. Pourquoi un jour des hommes et des femmes qui jusque-là chassaient et ramassaient des plantes en se déplaçant ont éprouvé le besoin de se fixer dans des lieux en se sédentarisant? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça, c'est certainement la question la plus difficile, n'est-ce pas? Bon. On peut penser que le climat, le changement climatique, on peut jouer sur ce genre de choix, de décision. On peut penser que la démographie, avec des populations qui étaient en nombre croissant, on peut également jouer. Mais ces hypothèses contraignantes, d'une certaine façon, sont abandonnées aujourd'hui. On pense que c'est l'homme lui-même qui, dans le cadre de son développement intellectuel, psychique, a inventé, d'une certaine façon, une autre façon de vivre, une autre façon de vivre en société, en créant le village, en se sédentarisant, l'agriculture et l'élevage ne venant qu'après cette sédentarisation.
Jean-Paul Demoule, nos sociétés actuelles prennent directement leurs racines, au fond, dans cette période du néolithique. Est-ce que cette nouvelle façon, justement, de domestiquer, de posséder des plantes et des animaux, est aussi à l'origine des conflits, de la violence, de la guerre?
La violence entre mâles humains, sans doute, dû toujours exister, mais à une échelle modeste et domestique. Là, au fur et à mesure du développement du néolithique, on va voir progressivement de plus en plus de témoignages, ne serait-ce que parce qu'effectivement, il y a de plus en plus d'humains. On passe de quelques centaines de milliers à 7 ou 8 milliards. Donc ça va aussi, ces masses humaines vont aussi créer des problèmes de rapport au pouvoir et d'inégalité sociale croissante.
Allez, cette histoire donc vieille au moins de 10 000 ans, on la scrute avec vous dans un instant et avec les messages des auditeurs franceinter.fr. Et donc à la une de la science aujourd'hui, un appel international à la protection.
Je suis le docteur Martin Blank du département de physiologie et biophysique cellulaire de l'Université de Columbia. J'apporte ici des nouvelles préoccupantes pour la santé provenant de gadgets comme les téléphones portables, tablettes, wifi, etc. Pour dire les choses clairement, ils endommagent les cellules vivantes de notre corps et tuent prématurément un grand nombre d'entre nous.
Voilà, c'était Martin Blank, donc, qui est un scientifique avec 206 autres spécialistes originaires de 38 pays qui ont adressé lundi dernier une lettre ouverte à Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS, et à Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Ils demandent des engagements, des mesures efficaces pour faire face aux risques liés aux ondes électromagnétiques. Pour en parler en direct depuis les studios de France Bleu Armorique à Rennes, le professeur Pierre Lerusse. Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes docteur en physiologie animale, expert européen en nuisances électromagnétiques et vous êtes également directeur du CRIREM, c'est le Centre de Recherche et d'Information Indépendant sur les rayonnements électromagnétiques. Pierre Lerusse, vous êtes signataire de cet appel, donc lancé par l'association EMF Scientist. Qu'est-ce que vous attendez précisément des Nations Unies et de l'OMS aujourd'hui?
Eh bien, on insiste certainement sur au moins 5 points. Le premier point, c'est de réduire les normes d'exposition, parce que il y a de nombreuses résolutions qui ont été mises en place par le Parlement européen en disant que ces normes sont obsolètes et qu'il fallait les revoir. Mmh. De plus, en France, avec la loi Abeille, on parle de modération et l'Agence nationale de sécurité et de santé le demande aussi. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut penser à la protection des enfants et à la protection des personnes à risque particulier. Alors, vous avez les femmes enceintes, vous avez les hyper-électrosensibles, vous avez les personnes qui sont implantées d'appareils qui sont d'assistance médicale, les pacemakers, les distributeurs de médicaments, les appareils cochléaires, etc., etc. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, on insiste aussi sur la sécurité des matériels. Parce que il y a des dysfonctionnements dus aux ondes électromagnétiques dans les transports dans les aériens, dans les transports terrestres et dans les transports maritimes. Donc il faut prendre en compte de ces problèmes-là et des incidents, on appelle ça la compatibilité électromagnétique, il y en a de plus en plus et c'est ce qui est le plus alarmant en fin de compte.
Alors justement, vous basez sur quelles études exactement, Pierre Lerus, parce qu'on sait que ces études sur les risques associés aux ondes non ionisantes sont très souvent contestées. Pour vous, les risques existent bel et bien, mais quelles sont les études sur lesquelles vous vous appuyez ?
Ben, si vous voulez, il faut prendre en considération trois choses. La première chose, il y a de très nombreuses études scientifiques qui ont été faites en laboratoire, qui sont discutées, complexes, sur lesquelles, c'est vrai, il n'y a pas vraiment d'accord. Par contre, les études épidémiologiques, là, que ce soit l'OMS, l'AFSET, nouvellement l'ANSES et d'autres, il y a trois cancers bien identifiés, la leucémie, le lymphome et le gliome. Et à cause de cela, on a une classification qui est une classification OMS et Centre international de recherche sur le cancer qui est que ces ondes sont classées agents cancérigènes 2B. Donc, à partir du moment où on a une classification concernant des problèmes qui sont des problèmes de risque, on arrête de discuter. Que les scientifiques discutent en trop, ça c'est quelque chose qui me semble évident, mais on arrête de discuter. On prend des décisions, et ça s'appelle la gestion des risques, et c'est une obligation, d'ailleurs rappelée par la directive 2013, on a l'obligation de gérer les risques.
Et vous dites, Pierre Lerus, qu'il y a des personnes à protéger en priorité ?
Il y a des personnes à protéger en priorité. Vous avez par exemple des personnes qui sont porteurs de dispositifs qu'on appelle implants actifs et inactifs, qui s'ils se trouvent dans un champ électromagnétique, bien peuvent avoir des problèmes. Et c'est connu. D'ailleurs, vous avez le code des postes et télécommunications qui insiste là-dessus, qui dit clairement. Et c'est une loi, la L32-12, qui dit que, absolument, bon, la santé, c'est d'accord, mais il y a la sécurité du matériel et surtout ce qu'on appelle la compatibilité électromagnétique. Et c'est une obligation. Et là-dessus, il y a des directives, il y a des arrêtés, il y a des normes. Mais a priori, personne ne semble écouter ces problèmes. Et c'est extrêmement grave parce que on parle aujourd'hui de connectique. Si on veut bien être connecté, il faut absolument que les champs électromagnétiques qui nous entourent ne soient pas trop élevés, bien choisis en fréquence, parce que autrement tout dysfonctionne.
Est-ce qu'il y a des précédents justement, Pierre Lerus, sur les risques liés justement à cette compatibilité électromagnétique là dont vous parlez?
Absolument. Déjà, le précédent qui est très connu, vous prenez votre petit livret de votre voiture qui est électronique, de plus en plus, et dans ce livret, c'est marqué « On ne doit pas utiliser le téléphone portable à l'intérieur de la voiture parce que ça peut faire dysfonctionner les calculs d'alteur de bord, les régulateurs de vitesse et les freins ABS. » Et des incidents au niveau des barrières de péage, il y en a plein. Et les voitures folles qui continuent à fonctionner quand même, qu'on est obligé d'accompagner avec la police jusqu'en Belgique. Vous avez aussi l'histoire du métro fou de Toulouse qui a fait plusieurs fois le tour de la ville à cause de ces problèmes de compatibilité électromagnétique. Vous avez des parkings où les voitures ne démarrent plus. Vous avez des carrefours où les voitures ne peuvent plus démarrer. Et ça, ce sont des incidents qu'on peut appeler mineurs, peut-être drôle, mais c'est moins drôle quand ça arrive en aéronautique ou en aval ou en aérospatial.
Vous pensez qu'on peut conserver un niveau de technologie tel qu'il existe aujourd'hui en limitant complètement les risques ?
On peut aujourd'hui, en ayant ce qu'on appelle une ergonomie de l'utilisation de tous ces appareils, avoir un niveau suffisamment bas mais qui fonctionne quand même, c'est le principe à l'ARA, et une gestion des risques, ça me paraît être la moindre des choses. Rappelez-vous, il y a une bonne vingtaine ou même trentaine d'années, quand il y avait les radios pirates, il y avait tellement de radios pirates qu'on ne pouvait même plus entendre la radio. Il a fallu prendre des décisions extrêmement sérieuses pour que ça arrête, qu'on puisse entendre les radios. Ben là, c'est pareil. Si vous avez un brouillard électromagnétique très intense, eh bien, vous avez tout un tas d'appareils qui ne vont plus fonctionner. Et c'est pas le but du problème, parce que on peut fonctionner, c'est toujours la même chose, c'est le principe à la RA, aussi bas que possible, à condition que ça fonctionne. Mais pour cela, il faut avoir des décisions qui sont des décisions pensées et surtout des décisions qui demandent que tout le monde s'y mette, que ce soit les opérateurs, les industriels ou les scientifiques ou les experts, de façon à définir un certain nombre de gestes qui vont dans le sens de la gestion des risques.
Et donc c'est ce que vous attendez clairement de l'OMS et de l'ONU ?
Absolument, c'est ce qu'on demande toujours, gestion des risques, puisque ces risques existent. Faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de risque, hein. Le risque zéro n'existe pas. On est dans une société à risque. Il faut limiter les risques pour que ça fonctionne normalement. Il y aura toujours quelques incidents ou quelques accidents, c'est sûr, mais le moins possible. Et vous prenez par exemple les histoires des antennes avec les fameux 100 mètres par rapport aux écoles et par rapport au système de soins. On est en train de faire comprendre qu'il faut limiter la puissance raisonnablement de façon à ce que ces lieux dits sensibles ne soient pas atteints. Et c'est dans ce sens-là. Et le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Écologie va aussi dans ce sens pour les lignes à haute tension, puisqu'il détermine ce qu'on appelle une zone d'inconstructibilité, le plus bas possible. Alors là, on parle de 1 microtesla. Et puis pour les zones sensibles, 0,4 microtesla, ça va dans le bon sens. Le problème, c'est pas le tout d'aller dans le bon sens, c'est de le faire et de prendre les décisions qui s'imposent.
Merci en tout cas Pierre Leroux. Je rappelle que vous êtes signataire de cet appel donc lancé la semaine dernière avec 206 autres spécialistes sur justement les risques liés aux ondes électromagnétiques. Merci beaucoup d'être venu nous en parler à la Une de la Science. Merci Axel.
À demain.
On peut podcaster bien sûr le rendez-vous comme toujours.
Comme toujours, 10 minutes à la Une en plus du dossier.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la plupart des galaxies mourraient par strangulation, selon les astrophysiciens de l'université de Cambridge, qui ont observé pas moins de 27 000 galaxies, 23 000 mortes et 4 000 vivantes. Leur fin serait une lente agonie qui survient lorsqu'elles se retrouvent à court du gaz froid, essentiellement composé d'hydrogène, et qui constitue la matière première de la fabrication d'étoiles. Les galaxies succomberaient donc en moyenne au terme de 4 milliards d'années de suffocation, au cours desquelles elles produisent d'énormes quantités de métal. La consommation de cocaïne est maintenant lisible sur le bout des doigts. Des chercheurs de l'université de Surrey en Angleterre viennent de mettre au point un nouveau test qui détecte les composés chimiques résultant d'une prise récente de cocaïne, des molécules qui sont sécrétées par le corps quelques heures après l'ingestion de la drogue. Selon les scientifiques, cette nouvelle méthode de test serait bien plus fiable que les précédents tests de salive ou d'urine qui sont aisément falsifiables. Et puis on termine avec un drôle de papillon qui enflamme les réseaux sociaux en étant moitié mâle et moitié femelle. Il a été découvert ce week-end par des étudiants de l'université de Drexel. Ses deux ailes droites sont marron avec des points jaunes et blancs typiques d'une femelle, alors que ses ailes gauches plus sombres présentent une coloration bleue et verdâtre, ce qui est caractéristique du mâle. Cette anomalie extrêmement rare est une forme de gynandromorphisme qui résulte d'une non-disjonction des chromosomes sexuels. Et vous pouvez retrouver la photo de ce curieux papillon sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, on part dans le néolithique dans un instant avec mes invités. Toutes vos questions, franceinter.fr.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la. La 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue.
I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me, bleeding me. A boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains.
The Boxer avec Simon & Garfunkel à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Le néolithique, c'est donc le dossier de l'émission cet après-midi, une période de mutation pour l'histoire humaine dont on parle avec mes invités Jean Guilaine et Jean-Paul Demoule. Jean Guilaine, vous êtes professeur au Collège de France, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et vous êtes l'auteur de ce livre, La seconde naissance de l'homme, rien que ça. Hein.
Rien que ça.
Le néolithique, donc aux éditions Odile Jacob. Jean-Paul Demoule, vous êtes professeur de proto-histoire européenne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France, et en 2008, vous aviez publié Les origines de la culture, la révolution du néolithique. Aux éditions Le Pommier, toutes les questions des auditeurs donc, qui arrivent déjà nombreuses sur franceinter.fr et sur le mot-clé la taxe. Ben, c'est pas mal parce que finalement, on s'intéresse au néolithique, Jean Guilaine. Alors oui. C'est une notion qu'on retrouve peu dans les manuels scolaires.
Oui, oui, mais je dirais que le néolithique a eu beaucoup de mal à s'affirmer au plan scientifique.
Oui. Pourquoi ?
C'est-à-dire pendant très longtemps, la préhistoire, c'était les origines de l'homme. Puis quand on a découvert l'art des grottes ornées du paléolithique supérieur, ça a fait un boom également en faveur de cette période-là. Et les origines de l'agriculture, de l'élevage, étaient un peu minorées parce que c'était le moment où l'homme commençait à brouiller les cartes, en quelque sorte. Oui. Et donc, ça n'était plus l'évolution naturelle qui s'exprimait. Et donc, les préhistoriens ont laissé un peu ça de côté. Et parallèlement, les historiens ont rejeté le néolithique dans la préhistoire. Donc, c'est une période qui s'est trouvée coincée entre deux sphères dominantes, si l'on peut dire.
Oui, Jean-Paul Demoule. Pourtant, cette période vraiment clé charnière, donc 10 000, 12 000 ans, on va dire, est très identifiable. Parce qu'évidemment, il y a des ingrédients très clairs, très nets dans ces changements de vie des hommes.
Hein. Oui, Claude Lévi-Strauss disait déjà qu'il y a eu deux grandes révolutions historiques dans l'histoire humaine, la révolution néolithique et la révolution industrielle. Et en fait, la révolution industrielle n'est que la conséquence
presque,
à long terme de la révolution néolithique.
Ouais.
Donc c'est effectivement ce qui est arrivé de plus fondamental.
Donc ce terme, ça signifie l'âge de la pierre récente, c'est ça Jean-Guilaine ?
Oui, l'âge de la pierre nouvelle.
Oui.
Bon. Mais ça, c'était dans l'optique d'une préhistoire qui distinguait une pierre ancienne et une pierre nouvelle.
C'était pour classifier les choses.
Voilà. Oui, mais en fait, personnellement, je pense que le néolithique n'a plus rien à voir avec la préhistoire. On est vraiment aux racines du monde historique, du monde rural, donc historique.
Ouais. Il y a Viron qui demande ceci, est-ce qu'on peut dissocier le néolithique de l'anthropocène qui correspond à l'ère industrielle ? Donc l'anthropocène, on peut rappeler aussi ce que c'est ?
Ben, écoutez, à partir du moment où l'homme intervient sur la nature, modifie la nature, on est dans un comportement de type anthropique. Et donc le néolithique marque les débuts du de la transformation par l'homme de son propre milieu.
Ouais. Sauf que, justement, Jean-Paul de Moule, est-ce qu'on peut dater précisément le passage au néolithique, donc cette grande période de mutation humaine? Ça doit en être fait, compliqué quand même, parce qu'on est à une période charnière, oui, où parce les couches se superposent.
Ce terme de néolithique, de révolution justement, est sans doute un peu trompeuse. C'est une révolution si on regarde de très loin, mais en fait, ça met au moins plusieurs siècles au minimum. C'est des inventions dans des foyers différents et indépendants de par le monde. Il y en a 5 ou 6 ou 7, et sans doute, ce qu'on commence de plus en plus à voir, c'est toutes sortes d'expérimentations aussi. Donc, ils sont même pas sans doute rendu compte qu'ils étaient en train de faire la révolution. C'est au fil des générations qu'on a commencé à favoriser certaines plantes, certains animaux, que des oui. animaux ont commencé à s'auto-domestiquer. Le plus ancien animal domestique, c'est le chien à partir du loup, donc oui. c'est même pas alimentaire. Mm-hmm. Et les civilisations de chasseurs qui sont restées, qui ont continué à pratiquer uniquement la chasse et la cueillette et la pêche, avaient déjà des chiens.
Oui. Justement, Jean-Guilaine, alors pour trouver des traces du néolithique, qu'est-ce qu'on a comme outil exactement?
Écoutez, comme vient de le dire Jean-Paul, cette révolution est une révolution de temps long. Mm-hmm. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit au point de vue archéologique? On voit d'abord des gens qui se sédentarisent, oui. mais ce sont toujours des chasseurs. Et puis ce sont des gens qui, en même temps, commencent à conserver leur mort auprès d'eux. C'est-à-dire que les morts, c'est une espèce de généalogie. On est là, on occupe tel territoire parce que certains, nos ascendants, nous ont précédés. Là. Mmh. Donc, en même temps que le village, naît la nécropole. Mais on est toujours chez des chasseurs. Et ça n'est que progressivement que l'on va voir les transformations qui vont advenir à la fois dans le monde végétal et dans le monde animal.
On va écouter l'extrait d'un documentaire qui s'appelle « La révolution néolithique » de Gaston Barnal Arnal avec le préhistorien Jean Courtin. Et il nous emmène justement dans la grotte de Fontbrégois, j'espère que je le prononce bien, c'est dans le Var, où seraient nés les premiers paysans provençaux du néolithique.
La grotte de Fontbrégois est un des très rares gisements de l'Ouest européen dans lequel on puisse assister au passage de l'économie de prédatrice des derniers chasseurs du Mésolithique à l'économie productrice des premiers paysans, pasteurs et agriculteurs du Néolithique ancien. Sur cette coupe, à travers cette exceptionnelle succession de foyers de la bobine de Fontbrégois, on peut suivre toute l'évolution du Néolithique méditerranéen et toute l'histoire des premiers paysans provençaux. À la base, l'économie était axée principalement sur la culture des céréales, le blé et l'orge, et l'élevage du mouton. À partir du 4e millénaire, à la culture des céréales s'ajoute celle des légumineuses, la féverole, le pois, la lentille, la veste. Et au troupeau de moutons s'ajoute un troupeau de bœufs, de porcs et de chèvres. Ce n'est qu'à partir du 3e millénaire, sans doute à la suite d'un essor démographique consécutif aux meilleures conditions de vie et à une économie productrice en pleine progression, que la grotte est progressivement abandonnée au profit des villages de plein air qui s'établissent dans les plaines, le long des vallées, dans toute la région.
Alors ça, c'est amusant parce que c'était en 1978, avec donc le préhistorien Jean Courtin, et vous avez fait partie de ce documentaire d'ailleurs, Jean-Guilaine, oui. et je vous vois très hésitant finalement sur les affirmations de Jean Courtin.
Hein. Non, je ne suis pas hésitant du tout sur la présentation de la stratigraphie de Fontbrégois. C'est qu'en fait, ce néolithique, il n'arrive pas. Comme ça, il ne naît pas en Provence, bien entendu. Mmh. Il naît au Proche-Orient quelques millénaires auparavant et il est ensuite diffusé. Autrement dit, il y a des pôles de naissance du néolithique. Ouais. Le Proche-Orient est le pôle qui a, en quelque sorte, diffusé, qui a alimenté la transmission de ce nouveau système social et économique vers l'Europe. Et donc, en Provence, à Fontbrégois, le néolithique le plus ancien, on peut le dater dans le courant du 6e millénaire avant notre ère.
Parce que là, on comprend qu'inscrit dans la grotte, justement, il y a cette trace très précise qui marque le changement.
Qui marque le changement sur place des chasseurs-cueilleurs aux premiers paysans. Mmh. Mais, si vous voulez, ce système lui-même n'est pas né sur place, il est en quelque sorte diffusé jusqu'en Provence et au-delà.
Jean-Paul de Houle, comme quoi c'est important l'interprétation qu'on peut faire justement aussi d'un matériau comme celui-là. Hein.
Ben, on mesure aussi les progrès qu'on a accomplis en à peine plus de 30 ans, puisque effectivement, on sait maintenant que ces grottes, c'était pas du tout là où vivaient les gens, c'était des bergeries qui étaient annexes, et les villages c'était des villages normaux déjà depuis longtemps, mais effectivement les agriculteurs du Proche-Orient arrivent en suivant les côtes progressivement et puis s'installent dans leur pays, rencontrent sans doute quelques chasseurs-cueilleurs, mais les absorbent assez vite, ce qui est d'ailleurs confirmé maintenant par les analyses d'ADN.
Ouais. Georges demande sur franceinter.fr, est-ce que ça n'est pas le feu qui a fait que les hommes se sont d'abord sédentarisés, Jean-Guilaine?
Le feu...
Qui est beaucoup plus ancien, évidemment, que la période que nous décrivons.
C'est nettement plus ancien, c'est remonte au paléolithique inférieur, dont le feu n'a rien à voir dans l'histoire. Le feu a pu servir, évidemment, l'amélioration des techniques du feu a pu servir à la connaissance de la métallurgie, de la céramique, qui n'apparaît pas d'ailleurs dans certains coins du monde avec le néolithique, mais bien avant. Mm-hmm. Pas, mais je ne pense pas que le feu ait joué un rôle direct, en quelque sorte, dans les processus de néolithisation.
Oui, le feu, c'est moins 500 000 ans à peu près en France et entre 1 million et 1 million et demi en Afrique.
Ouais. Donc, on ne cesse de reculer d'ailleurs, voilà, la date de l'apparition, de la domestication en tout cas du feu. Simon vous pose cette question. Qu'est-ce que vous pensez du possible retour du néolithique dans les programmes d'histoire? On l'évoquait rapidement tout à l'heure.
Avec Jean, nous déplorons régulièrement, effectivement. C'est ce que j'ai appelé une fois les millénaires zappés, c'est-à-dire que si on demande dans la rue des hommes préhistoriques, on sait, puis après les Gaulois, on sait. Mais au milieu, il y a 10 000 ans qui sont pas enseignés. Les programmes scolaires précisent que dans le secondaire, l'histoire commence avec les grandes civilisations, comme si les grandes civilisations, les villes, les rois et les armées étaient une sorte de données de base et qu'il n'y avait pas à faire toute cette réflexion pour comprendre ce qui s'est passé.
Jean-Guilaine.
Mais au fond, effectivement, le néolithique, ce sont les racines du monde historique. Et donc, ce dont Jean-Paul vient de parler, c'est-à-dire les rois, les armées, mais l'écriture, les premiers empires, tout cela, toutes ces choses-là, sont d'une certaine façon un germe des néolithiques.
Et nos sociétés à nous aujourd'hui.
Et nos sociétés
à nous.
Donc ce qui nous intéresse, nous chercheurs, c'est de trouver effectivement les racines de ces choses-là, de ces institutions, de ces systèmes.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion avec beaucoup de messages pour vous sur le site franceinter.fr et le mot-clé l'attaque aussi.
Je m'aperçois que rien ne va bien. Je m'aperçois que rien ne vaut rien. Le monde, je n'y suis pas chez moi. Je crois que tu ne comprends pas. Que tu ne comprends pas. Quelques larmes coulent de tes yeux. Et je sais que malheureux n'est pas un mot pour nous. Que nous méritons bien mieux. Nous méritons bien mieux. Qui de la nuit ou de toi reste désenchanté? Qui de la nuit ou de moi est le plus désolé? Je crie en vain, je ne sais plus rien. Je doute de tout, tu le sais bien. Je t'aimais si fort autrefois. Tu étais si belle, je crois. Pas un mot pour nous deux. que nous méritions bien mieux. Nous méritions bien mieux. Qui de l'ami ou de toi reste désenchanté? Qui de l'ami ou de moi est le plus désolé?
Et c'est la voix de Daniel Darc à l'instant dans La Tête au Carré. Jean Guilaine, Jean-Paul Demoule pour parler du néolithique avec ce livre qui paraît chez Odile Jacob, La Seconde Naissance de l'Homme, Jean Guilaine. C'est donc bien le néolithique. Qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs en couverture? Ce sont des bovidés en or, c'est ça?
Oui, qui viennent d'une des sépultures de Varna en Bulgarie, en gros autour de 4005-4000 avant notre ère.
Ce sont des bijoux, a priori?
Ce sont des éléments qui devaient être plaqués, fixés sur des vêtements probablement, et qui souligne, avec d'autres éléments, céramique, des armes, etc., le statut élevé du personnage enterré là.
Oui. Donc avec aussi des classes sociales déjà à cette époque.
Bien sûr, parce que très tôt, le néolithique a engendré des dominants et des dominés, bien entendu. Ça, c'est intéressant d'ailleurs du point de vue social. C'est que cette période qui aurait pu être une grande période du partage est devenue en fait une période où les inégalités se sont très tôt affirmées.
Oui. Également des hommes sur les femmes, Jean-Paul Demoule?
On ne connaît pas de société humaine où ce soit les femmes qui aient le pouvoir politique. Donc elles sont, c'était la théorie qu'on trouve de temps en temps d'une sorte de matriarcat primitif, mais qui relève plus d'un fantasme masculin. Il y a beaucoup de mythologies qui disent d'ailleurs les femmes avaient le pouvoir au début, mais elles s'en sont tellement mal servies qu'il a fallu le reprendre. Donc dans toutes les sociétés humaines, y compris la nôtre, les femmes sont dominées, mais plus ou moins, effectivement, à des degrés divers.
Jean Guilaine.
Il y a un élément archéologique, d'ailleurs, qui démontre bien cela. Ce sont les statues menhirs, c'est-à-dire ces premières images de pierre que nous avons de ces populations dans les courants des 4e, 3e millénaires.
C'est une question de Rémi, justement. Qu'est-ce qui relie le néolithique aux constructions en pierre?
Les femmes sont représentées par un caractère biologique, anatomique, leur sein. Et les hommes sont représentés par des éléments de pouvoir, c'est-à-dire des armes. C'est-à-dire que les hommes sont dans la chasse, la guerre, choses qui permettent de se construire un statut social.
Alors justement, il y a un personnage très intéressant auquel vous consacrez plusieurs pages, Jean Guilaine, c'est Ötzi. Alors il faut justement en parler, parce que c'était quoi, il y a 5000 ans à peu près, homme qu'on a retrouvé en 91, parfaitement conservé, dans la glace.
Oui, qui est devenu un personnage de roman, presque, maintenant. Et bon, vers 3200 avant notre ère, c'est un personnage qu'on a retrouvé au frigo, si l'on peut dire.
Il était coincé dans
les glaces des Alpes. Et alors au début, on ne savait pas trop, on s'est dit « Ah, il est mort de froid probablement », etc. Et puis on s'est aperçu qu'il avait une flèche qu'il avait dans l'épaule gauche qui avait été mortelle, en fait. En fait, il a été tué, donc ça prouve que l'époque n'était pas de tout repos, et que la violence, on en a touché un mot tout à l'heure, jouait un rôle important dans ces sociétés, qui étaient des sociétés de compétition, et de souvent où les antagonismes étaient très importants.
Sur son poignard en silex, il y avait de l'ADN de 5 personnes différentes.
C'est ça. Donc lui aussi aurait pu se défendre.
Certainement battu également.
Il est louche.
Mais on l'aime bien quand même, parce qu'il donne beaucoup d'informations.
C'est aussi le plus ancien corps humain dont on est la peau. On a des ossements depuis 9 millions d'années, et cette peau est déjà tatouée.
Alors on va écouter un extrait justement du documentaire La surprenante histoire de Tsi pour revenir sur cette pointe de flèche.
First of all, we have a body.
D'abord, on a un corps, et dans l'épaule gauche, une pointe de flèche. Et une blessure récente dans le dos de l'homme des glaces. Rien de plus. Je ne dis qu'une chose. Il est évident que l'homme des glaces a été abattu par derrière.
La pointe de flèche elle-même nous renseigne sur l'assassin.
Dans les radiographies, apparaît chiaro que...
Les rayons X
prouve que la pointe de flèche trouvée dans l'épaule d'Ozi a la forme typique de celle qu'on trouve dans les Alpes du Sud.
Tipica delle punte di freccia che si trovano a sud delle Alpi.
Les pointes de flèche des Alpes du Nord ont toujours une base plate, comme celle-ci. J'en conclus, Ozi a été tué par quelqu'un qui vivait dans les Alpes du Sud, près du lieu où son corps a été retrouvé.
Et ça, ça permet effectivement, ce sont des informations intéressantes, Jean-Guilaine, sur la naissance de... Enfin, pas la naissance d'ailleurs, en tout cas la violence, les règlements de compte entre les hommes de cette époque.
Tout à fait. Mais on a déjà, dès la fin du Paléolithique supérieur, un cas intéressant, qui se trouve au Soudan, le Djebel Saaba, où on a une sorte de nécropole composée de fosses dans lesquelles il y a pêle-mêle plusieurs sujets. Et ces sujets, la moitié, il y a 60 personnes à peu près, la moitié ont leurs os encore, des flèches fichées dans leurs ossements. Et puis les autres, il y a des flèches erratiques, c'est-à-dire qu'ils ont également probablement été tués, mais dans les parties molles de leur corps, vous voyez. Et donc ça prouve que déjà, pour des problèmes probablement de territoire, les hommes de la fin du Paléolithique commençaient de se taper dessus.
Jean-Paul Demoule, c'est le début de la guerre à cette période ou ça existait bien avant déjà dans la préhistoire?
Je pense qu'il y a toujours une violence latente mais limitée à partir du moment où le néolithique va se développer, où effectivement il y a des territoires, où il va y avoir des inégalités sociales croissantes et donc des choses à prendre. On le voit archéologiquement, c'est-à-dire les villages commencent à se fortifier, à monter sur des hauteurs mal commodes, on a des traces d'incendies, donc c'est, si vous voulez, c'est exponentiel. Ça ne veut pas dire que au Paléolithique, donc du temps des chasseurs-cueilleurs, c'était le paradis sur terre, mais ça veut dire en tout cas que ça devient de plus en plus systématique.
Ouais. Et puis les groupes humains étaient beaucoup moins importants pendant la préhistoire, parce que là au néolithique, on a ce boom démographique qui fait que aussi cette augmentation de la population engendre des conflits entre les hommes.
Oui, sur la surface de la Terre, d'après les évaluations qu'on peut faire, c'est au maximum quelques centaines de milliers d'individus sur l'ensemble de la planète au Paléolithique, et là on va commencer à compter en millions au néolithique. Et donc ça va effectivement se bousculer, surtout que par exemple l'Europe c'est une presqu'île, donc à partir venant du Proche-Orient, à partir du moment où ils arrivent à l'Atlantique,
il y a une pression.
À l'époque de Christophe Colomb, il faudra vivre dans le même territoire.
C'est ça. Ouais. Jean-Guilaine, il y a ce courriel de Daniel, elle nous dit ceci: le début de l'agriculture a créé des rapports sociaux et des conflits, voire des massacres, comme le montre la découverte des squelettes d'un groupe avec des flèches dans le corps, dans le Vaucluse. Est-ce qu'on peut parler de guerre? Je ne sais pas à quoi fait référence Daniel.
C'est l'hypogée de Rouex, je suppose. Oui, c'est l'hypogée de Rouex, qui est une fouille Jean Courtin, dont nous avons parlé tout à l'heure.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler de guerre à ce moment-là avec ces flèches?
On peut parler de guerre, mais ce sont des guerres, évidemment. Il faut ramener tout ça à l'échelle des populations, des villages de l'époque, bien entendu. Ce sont des antagonismes entre villages qui peuvent se solder, effectivement, par des heurts, des conflits et des morts violentes.
Ouais. François demande, est-ce que l'apparition de nouvelles armes, comme l'arc, a favorisé la sédentarisation, justement?
Je ne sais pas si l'arc a favorisé la sédentarisation, mais il a favorisé la guerre, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, la plupart du temps, les sujets que l'on trouve dès le mésolithique et dans la totalité du courant du néolithique, lorsque l'on trouve des sujets percés de flèches, ce sont des sujets qui ont été donc touchés par des flèches, donc par des archers. Alors, les guerres néolithiques, on en a d'ailleurs une représentation intéressante dans ce qu'on appelle l'art du Levant espagnol. C'est un art qui s'est développé dans toute la partie méditerranéenne de l'Espagne, sous des auvents rocheux. Ce sont des scènes peintes qui sont souvent des scènes de chasse et quelquefois des scènes de guerre. Et là, on voit, par exemple, des groupes se tirer dessus lors de conflits. Et il y a un article tout récent qui est apparu dans la revue Antiquity de Esther López Montalvo qui démontre bien que ces scènes de guerre datent de la fin du néolithique, autour de 3000 avant notre ère, alors que pendant longtemps on les avait vieillies, non? Ouais. C'est un moment précisément où les tensions sont au plus haut, si l'on peut dire. Et c'est en même temps un peu la même époque à laquelle on trouve en France le maximum de sujets blessés ou tués par flèche.
Jean-Paul Demoule,
Oui, c'est-à-dire quand on dit néolithique, c'est pas un bloc homogène, c'est une évolution historique qui débouche ensuite sur des sociétés de plus en plus inégalitaires, qu'on appelle quelquefois calcolithiques, parce qu'il y a déjà le cuivre, le calcone, et puis qui va déboucher au Proche-Orient à partir de 3500-3000 sur les premières villes du monde, les premiers empires. En Europe, ça va être avec des hauts et des bas, ça va mettre un peu plus longtemps, il y a 2-3 millions de décalages. Mais ça aussi aboutit au même résultat. Donc c'est au cours du néolithique qu'on voit cet accroissement progressif et des inégalités sociales et de la violence entre groupes humains. Ouais.
Mais qu'est-ce qui marque la sortie alors du néolithique, Jean Guilaine, précisément? Comment on sort du néolithique? Qu'est-ce qui marque aussi la sortie de cette
période? Économiquement, on ne sort pas du néolithique.
On y est toujours.
L'âge du bronze, l'âge du fer, c'est la poursuite du monde paysan. Le néolithique est enraciné d'une certaine façon. Mmh. Ce qui va changer, ce sont les techniques et également les organisations sociales.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus vers des sociétés inégalitaires, pyramidales, hiérarchisées, et qui vont finir avec le point extrême qui est celui de l'État, qui apparaît en Égypte autour de 3000 avant notre ère, et qui est un système sur lequel nous vivons encore, d'une certaine façon.
Eh bien, on y revient avec vous dans un instant, suite de notre discussion, toujours avec les messages sur franceinter.fr. Et c'est Moriarty sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, deux grands spécialistes du néolithique. Jean Guilaine avec nous, La seconde naissance de l'homme, c'est chez Odile Jacob. Et puis Jean-Paul de Moule avec Les origines de la culture, la révolution néolithique aux éditions Le Pommier. C'est sorti en 2008 hein, oui, pour votre ouvrage Jean-Paul de Moule, mais je pense qu'on peut encore le trouver sans aucun problème.
Oui, il a été réédité.
Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, Jean Guilaine, on peut dire que nous sommes encore au néolithique ou pas? Ça paraît.
On n'est plus au néolithique. Dans la mesure où l'agriculture est encore là, bien entendu, oui. On a un legs du néolithique. Mais actuellement, avec l'alimentation industrielle qui se développe, on a un peu coupé les ponts sur ce plan-là.
Oui, mais il n'y a pas si longtemps que ça, hein, finalement.
Non, puisque les civilisations... Prenons le cas de la France, pratiquement, le monde paysan traditionnel est allé progressivement en mourant, d'une certaine façon, dans le courant du XXe siècle.
Jean-Paul de Moule.
Oui, ce qui caractérise le néolithique en France, mais dans d'autres pays, c'est des maisons rectangulaires en bois et en terre, un élevage fondé sur le bœuf, le porc, le mouton, la chèvre et, et le cheval. Tout ça, ça va durer jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Le seul apport supplémentaire, ça va être le fer dans les derniers siècles avant notre ère. Donc, ouais. Les paysans paieront pas leurs impôts aux mêmes personnes, mais en gros, le mode de vie, lui, va pas être fondamentalement différent. C'est maintenant que c'est en train de disparaître.
Jean-Marc demande, est-ce que les gens du voyage sont les derniers survivants des nomades chasseurs-cueilleurs, Jean Guilaine?
Non, dans la mesure où ils se nourrissent de plantes ou d'animaux domestiqués.
Et cette question de parents d'élèves sur Twitter, le néolithique, c'était où? Merci de préciser quelle zone géographique.
Alors, le néolithique...
Est-ce que ça a émergé partout dans le monde au même moment?
Il y a 4 ou 5 laboratoires. Il fallait pour cela qu'il y ait des espèces animales ou végétales potentiellement domesticables. C'est-à-dire qu'on a d'une part le Proche-Orient pour le blé, l'orge, la chèvre, le mouton, le porc, le bœuf. On a la Chine pour le millet, le riz, un suidé également. Bon, le Mexique pour notamment le maïs. Bon, et vous voyez que ces 3 plantes, le riz, le blé et le maïs, sont encore les céréales qui nourrissent l'essentiel de la population du globe. Mais on a d'autres pôles de naissance du néolithique, les Andes par exemple, pour la pomme de terre en particulier. La Nouvelle-Guinée, qui est un centre qui n'a pas trop diffusé, taro, banane, et l'Afrique plus tardivement, parce que tout ça n'est pas chronologiquement cohérent, contemporain, vous voyez. Bon. Et l'Afrique, peut-être le plus récent, pour la domestication des plantes africaines, avec le sorgho, le mil, autour de 2000 avant notre ère.
Tout ça n'est pas simultané, mais dans l'histoire de l'évolution, c'est le même moment. Hein.
C'est avant-hier.
Oui, absolument.
C'est le premier moment où on a à la fois l'homo sapiens moderne, comme vous et moi, et une période climatique qui est l'actuelle interglaciaire. Depuis moins 115 000 jusqu'à moins 10 000, on était dans une période glaciaire qui était moins favorable.
Jean Guilaine évoquait tout à l'heure la question du climat, justement. Oui. Est-ce que les conditions environnementales ont été ou pas à l'origine du néolithique? Alors, c'est toujours débattu, ça?
Il y a des conditions nécessaires, comme effectivement, comme le disait Jean, des espèces végétales et animales domesticables et des conditions favorables. Cela dit, souvent, le néolithique apparaît là où c'est un plus. Parce que si vous êtes dans un univers qui regorge de ressources naturelles, si vous êtes dans les grandes plaines américaines avec 10 millions de bisons, vous n'allez pas vous embêter à domestiquer le bison, qui n'est pas un animal très, très, très commode. Et si vous êtes au milieu du Sahara, c'est pas très intéressant non plus. Donc, c'est comme au Proche-Orient, c'est des milieux un peu intermédiaires où ça va donner quelque chose en plus.
Mais il y a toujours ces discussions entre les climatologues et les archéologues, hein, Jean Guilaine.
Oui, les climatologues ont repris un peu du poil de la bête ces derniers temps.
Oui,
en montrant par exemple que des formes d'aridification ont pu jouer dans l'abandon de certains sites néolithiques. Donc, il y a toujours un débat là entre le déterminisme climatique et l'action humaine. Bon. Pour rebondir sur ce que disait Jean-Paul, là, l'Égypte, par exemple, qui se trouve aux portes du Proche-Orient, a résisté pendant longtemps au néolithique, puisqu'il n'y a pas de néolithique en Égypte avant 5500 avant notre ère, alors qu'au Proche-Orient, qui est à portée de fusil, si l'on peut dire, le néolithique est là depuis déjà quelques millénaires.
Sédentarisation, élevage, domestication animale, c'est le triptyque néolithique, au fond, Jean-Paul de Moule,
oui,
si on veut résumer...
Oui, mais on peut avoir des sociétés sédentaires sans agriculture ni élevage, comme on a. Et là où on a des ressources naturelles justement abondantes, notamment dans une partie de la Sibérie, le Japon, ou plus près de nous, les Indiens de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, ceux qui fabriquaient les fameux totems en bois, qui étaient des sociétés même complexes, des fois avec déjà en partie des esclaves, mais qui n'ont pas eu besoin de l'agriculture et de l'élevage avant d'être absorbés par les agriculteurs.
Jean-Claude demande sur Twitter, Jean-Guilaine, est-ce qu'à cette époque, il n'y a pas toujours eu à la fois nomadisme et sédentarité donc, au néolithique ?
Oui, déjà dès la naissance du néolithique au Proche-Orient, dans le courant du 8e millénaire, 7e millénaire avant notre ère, on s'aperçoit que l'homme s'adapte, n'est-ce pas, aux conditions environnementales. Dans les zones arrosées, on peut avoir de l'élevage et de l'agriculture. Dans les zones plus sèches, il y a essentiellement du nomadisme, nomadisme pastoral. Donc vous voyez, l'homme néolithique a cette capacité évidemment de s'adapter aux environnements différents qui l'entourent.
Le néolithique n'a-t-il pas été, dit Françoise, la fin d'une nature qui existait depuis des millions d'années et que l'homme a bouleversée en la dégradant par son installation comme agriculteur, Jean-Paul Demoulin. Ben, le rapport a complètement changé.
C'est sûr que on parle de sixième grande extinction des espèces et que c'est le résultat direct, effectivement du néolithique. On n'a pas encore les moyens de savoir jusqu'où ça ira, mais en tout cas ça apparaît avec le néolithique et c'est une rupture. C'est pour ça qu'on parle quelquefois d'anthropocène, en faisant coïncider avec l'invention de l'agriculture et l'élevage, donc les derniers 10-12 000 ans, parce que ça change radicalement toute la nature et le rapport à la nature.
Alors c'est ça, et le rapport au temps aussi, Jean-Guilaine, le rapport au temps, le cycle des saisons, ça véritablement, nouvelles données pour les...
Oui, mais le cycle des saisons, les paléolithiques déjà l'avaient d'une certaine façon saisi, adopté, pour la chasse, ils savaient quand est-ce que les rennes passaient à tel endroit, quand est-ce qu'il fallait aller chasser le bouquetin en montagne, etc. Mais le néolithique, si vous voulez, ajoute quelque chose dans la mesure où le paysan néolithique doit avoir une politique de long terme.
Il y a une gestion, quoi.
Il y a une gestion du temps. Autrement dit, on sème, mais on ne va pas récolter tout de suite. Donc, on est obligé d'avoir des stocks, etc. Donc, vous voyez, c'est cette socialisation du temps qui se manifeste probablement, qui se manifestait par des fêtes, n'est-ce pas, avec des sortes de ruptures saisonnières, qui est mise en avant.
Donc ça, ce sont des capacités cognitives aussi nouvelles pour l'homme, parce que cette anticipation à très long terme...
Bien sûr, c'est une construction.
C'est-à-dire que le cerveau change aussi beaucoup à ce moment-là?
Absolument. Ben, le cerveau crée, et en quelque sorte, tout un système nouveau, et l'homme devient d'ailleurs esclave de ce propre système, parce que si vous demandez aux gens aujourd'hui de vivre comme au paléolithique, ça serait vraiment très difficile.
Il y a des calendriers qui existent, Jean-Paul Demoulle, à l'époque ou pas ?
On suppose cela quelquefois pour certaines plaquettes gravées dès le paléolithique qui auraient pu noter des lunaisons. On a pu observer que certains monuments, notamment mégalithiques, enfin, type dolmen, etc., menhirs, avaient des rapports avec des phénomènes astronomique.
Sophie demande qu'en est-il du cannibalisme au néolithique, Jean-Guilaine ? Est-ce que c'était une pratique courante ou pas ?
Non.
On s'est croqué un peu à cette époque.
Non, mais le cannibalisme existe déjà dès les temps paléolithiques. Il est toujours pratiqué parfois au néolithique et même lors de périodes plus récentes, bien entendu. Mais il n'a pas partie liée intrinsèquement avec le néolithique.
Oui, c'est le fait d'ingérer effectivement soit ses ancêtres, soit ses ennemis, et le rite chrétien de l'Eucharistie continue à procéder finalement de cette idée.
Quel est le rôle de la religion ? Question importante, demande rapidement sur Twitter, Julien.
Oui, je pense que la religion était très importante, et je pense que pour le néolithique, bon, il pouvait y avoir des cultes de fertilité, puisque l'homme a besoin d'abord de manger, de se nourrir pour survivre. Mais je pense que le système clé, c'était un culte des ancêtres. C'est-à-dire que la religion était une religion mythologique, un peu probablement au paléolithique, ça devait commencer ça. Une religion mythologique fondée essentiellement sur le culte des ancêtres, c'est-à-dire des ascendants qui ont créé le territoire, le terroir sur lequel on vivait.
Et les rituels aussi beaucoup de nouveaux rituels à ce moment-là.
Et les rituels, évidemment, étaient liés à toutes ces pratiques religieuses. Mmh. Je mets religieux entre guillemets, bien entendu.
Mmh. Crix nous demande, est-ce qu'on apprend pas trop l'ère préhistorique, pas trop tôt l'ère préhistorique? Une fois adulte, il ne nous reste plus grand-chose de sa chronologie. Le nom des hommes, des dates, tout ça est très difficile.
Jean-Paul Demaulle. C'est paradoxal qu'on suit l'histoire de l'humanité en même temps que la scolarité, alors que c'est au contraire des problèmes à la fois passionnants et complexes, et qui soient pratiqués très très peu présents dans l'enseignement secondaire, c'est tout à fait regrettable.
Jean-Guilaine, mais c'est le retour en force du néolithique, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Retour en force, on avait dit climatologue, mais je pense aussi retour en force, et je pense un peu que notre génération, celle de Jean-Paul, la mienne, c'est en gros la même, avons réussi un peu à mettre sur un piédestal cette période trop longtemps minorée.
Bon, vous avez fait du bon boulot, alors c'est ce que vous voulez dire, hein, finalement, pour résumer.
On s'accorde une satisfaction.
Oui, mais c'est pas fini.
Vous le reconnaît.
Le combat continue.
Merci à tous les deux. Jean Guilaine, La seconde naissance de l'homme chez Odile Jacob, et puis Jean-Paul Demaulle, Les origines de la culture et cette révolution néolithique, aux éditions Le Pommier. Fabrice Drouel qui se laisse pousser la barbe. Tiens, bonjour Fabrice.
Bonjour.
C'est nouveau ça.
C'est nouveau.
Voilà, exactement. Voilà. Le clan des barbus, c'est tough. De quoi on parle dans l'affaire sensible tout à l'heure?
L'affaire des foulards, vous vous souvenez, en 1989, le foulard islamique, on disait foulard à l'école, c'est la question de la place des musulmans en France, de leur capacité à s'intégrer et de notre capacité à les intégrer. Mm-hmm. Nous en parlerons avec le journaliste Thomas Deltombe, spécialiste de la question.
Eh bien, vous changez de studio et on vous retrouve juste après les infos. Merci Fabrice, vous écoutez France Inter. Bon après-midi, les 15h.